Média.
Média. Podcast.
C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média, Amna, l'Afrique en culture.
Dans quelques instants, eh bien, nous irons à la rencontre de Christian Thiam, réalisateur sénégalais, également scénariste et producteur. Il sera avec nous aujourd'hui et nous aborderons une thématique qui lui tient particulièrement à cœur, puisque d'ailleurs il travaille sur cette thèse, la nationalité cinématographique sur notre continent. On parlera également cinéma avec lui et de son actualité cinématographique. Sinon, nous rendrons hommage à notre manière à la regrettée Fatema El-Oukili qui nous a quittés mardi dernier. La célèbre journaliste a tiré sa révérence des suites d'une longue maladie. Après avoir rejoint l'équipe Média en 1982 qui venait juste d'être lancée, elle passera ensuite par 2M en se faisant connaître, notamment par des débats politiques qui feront sa notoriété. Mais Fatema El-Oukili, à côté, c'est également une amoureuse du cinéma, une cinéphile qui a fait des films en tant que scénariste, mais également en tant qu'actrice, notamment avec Farida Abliyazid, Mustapha Darkawi, encore Jilali Farhati. On lui rendra hommage à notre manière avec le témoignage poignant de la réalisatrice Leïla Tseliki. Sinon, nous parlerons également littérature avec un premier roman devenu best-seller international, la romancière nigériane Oyinkan Braithwaite, figure montante de la littérature africaine, vient de publier l'une ou l'autre son second roman qui vient juste de paraître en français, une réécriture grinçante du Jugement de Salomon. On en parle dans quelques instants. Et comme promis tout à l'heure, tout de suite, nous parlons cinéma avec le réalisateur sénégalais Christian Thiam. On ne le présente plus, bien sûr. En 2009, il réalise son premier documentaire intitulé Samba Ken, Life in Prison. Ce film documentaire parle d'un expatrié sénégalais enfermé à perpétuité à Denver, dans l'état du Colorado. S'en suivra Annecy, les dessous d'un sommet en 2010, puis 2014. Il réalise le documentaire Casa, Dimansa, sans oublier Mami Wata en 2021, qui est son premier long métrage de fiction. Et en ce moment, eh bien, Christian Thiam se focalise sur une question cruciale concernant le cinéma sur notre continent, la nationalité cinématographique, l'ADN même du cinéma africain sur notre continent. Une thèse qui lui tient tout particulièrement à cœur et dont il nous en parle tout de suite.
J'estimais que c'était un problème assez important pour le cinéma africain en général, plus particulièrement sur la préservation de notre patrimoine cinématographique. On s'est rendu compte une chose, c'est que à travers le monde, et ça c'est venu depuis l'OIF, mais à travers le monde, la nationalité d'un film, elle dépend de la nationalité du producteur ou de la maison de production. Mm-hmm. Quand on regarde notre cinéma en Afrique, principalement si on se base sur le FESPACO, on se rend compte que la plupart des films qui ont été primés au FESPACO ne sont pas africains. Ils ont une production soit française, soit occidentale en général, et donc ont une nationalité occidentale. Et ça pose un problème sur le plan du patrimoine. J'ai eu des entretiens avec plusieurs personnes, dont le fils de Ousmane Sembène, qui est son héritier, le fils de Paulin Soumano Vieira, qui est son héritier, qui aujourd'hui voit cet héritage, ce patrimoine, en tout cas cinématographique, nous échapper. Pour la plupart, ils appartiennent à la France ou à d'autres pays. Après, on ne voit pas l'impact automatiquement aujourd'hui, mais dans les générations futures à venir, ça aura un impact. Donc l'idée pour moi dans cette thèse, c'est de trouver un moyen de détermination de la nationalité cinématographique qui soit indépendant du producteur, qui soit indépendant même du réalisateur, ce qui s'est fait sur la base du film en tant que tel, qu'on puisse avoir en tout cas une reconnaissance patrimoniale qui ne soit pas entièrement dépendante de l'argent, mais qui soit sur des éléments culturels qu'on retrouverait dans les films et qui pourrait identifier l'origine nationale de ces films sur la base de ces éléments culturels. L'élément que j'utilise principalement pour ma thèse, c'est le rythme. Essayer d'identifier le rythme du film et de le coller à une identité culturelle et donc à un espace géographique bien déterminé
Et ce que je voudrais également savoir, Christian Thiam, c'est que voilà, on est en 2024 et c'est vrai que beaucoup de films africains vont chercher des productions, notamment en Europe. Est-ce qu'on ne voit pas l'émergence d'un circuit de production propre à l'Afrique, notamment avec cette nouvelle génération ? Est-ce qu'il n'y a pas cette volonté-là ?
Il y a cette volonté, mais elle fait face à beaucoup de difficultés. C'est une des choses que je recherche d'ailleurs. Le problème du financement, il est surtout lié à une infrastructure qui puisse justifier un tel financement. Il faut que le film puisse avoir un marché dans lequel il peut être vendu. Malheureusement, si on regarde le cas du Sénégal, par exemple, il n'y a pratiquement plus de salles de cinéma, à part à Dakar seulement. Dans les régions, il n'y en a pratiquement plus. Après, un film, aujourd'hui, le coût pour faire un film au Sénégal ou dans les autres pays d'Afrique, il est extrêmement élevé. Et par rapport à la rentabilité du marché, il n'y a pas de cohérence entre le coût du film et la rentabilité que peut apporter le film dans le marché africain en général. Après aussi, les marchés cinématographiques en Afrique sont segmentés, c'est-à-dire que le marché cinématographique sénégalais reste le marché cinématographique sénégalais. Et il n'est pas nécessairement intégré au marché cinématographique marocain, par exemple. C'est-à-dire que nos films restent dans nos frontières. Et même dans nos frontières, ils ne sont pas tellement commercialisés comme ils devraient l'être. Il faut trouver un moyen d'intégrer ces marchés pour qu'ils puissent être commercialisés sur une plus grande partie du territoire. Et après, il faut trouver le moyen de réduire les coûts de la production d'un film pour pouvoir avoir une rentabilité financière. Il faut voir que, par exemple, au Sénégal, il n'y a jamais eu, dans l'histoire du Sénégal, un film qui a eu une rentabilité financière. Ça n'existe pas.
D'accord.
Et donc, quand on a... ça n'existe pas. Que ce soit les plus grands, Sembène, Djibril et tout ça, ils n'ont pas eu une rentabilité financière dans un film. Alors, quand on a un track record de cette manière où on n'est pas arrivé depuis l'indépendance à avoir une rentabilité financière dans nos films, il est difficile de trouver des fonds sur le marché privé. Parce qu'aujourd'hui, on finance principalement sur le marché public. Ce sont les institutions qui financent. Ça, c'est ces institutions publiques qui financent. Parce que le privé n'y voit pas son compte. Il faut trouver le moyen de rendre justement le privé, intéresser le privé pour qu'il puisse financer et qu'on puisse développer une économie locale. Le Nigeria l'a fait. On a beau critiquer le Nigeria ou la qualité de leurs films, mais ils l'ont fait. Il y a une rentabilité financière. Mais c'est parce que les coûts pour faire un film au Nigeria sont très minimes par rapport à ce que serait au Sénégal ou au Maroc. Et il y a un marché de près de 200 millions d'habitants qui peuvent acheter un film à un coût très réduit, mais
bien
après,
sûr,
sur le nombre, ils se retrouvent. Donc l'idée, c'est vraiment, il faut trouver le moyen de créer un marché, de créer une industrie, ce qui n'est pas encore le cas en Afrique. Et on se retrouve en Afrique avec un modèle économique, au Sénégal par exemple, ou dans toute l'Afrique francophone d'ailleurs, où un producteur se fait payer avant que le film ne soit fait. C'est payé sur le financement.
Oui.
C'est la preuve nette que bon, on n'attend pas une rentabilité financière de ça. Aucun investisseur privé ne pourrait investir tranquillement son argent dans un modèle pareil. Il faut redéfinir le modèle.
C'est assez parlant. On voit de plus en plus le cinéma africain s'exporter, les films africains s'exporter à l'international, l'émergence de jeunes cinéastes africains très talentueux qui sont connus à l'international. Et c'est vrai que c'est assez étrange de se dire que chez nous, on a du mal à consommer ces films qui connaissent un essor à l'international.
Effectivement, en ce qui concerne l'essor du cinéma sénégalais ou africain en général à travers le monde, il est incontestable qu'effectivement, il y a un certain engouement qui existe avec de nouveaux réalisateurs qui ont une reconnaissance internationale aujourd'hui. Cependant, moi, je cautionne plutôt cette reconnaissance internationale parce que, pour moi, cette reconnaissance internationale, elle est simplement basée sur les festivals, le fait de gagner des prix à un festival. Mais elle ne se répercute pas dans les salles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'afflux nécessaire, en tout cas, pour pouvoir construire une industrie. Un cinéma de festival, ça ne construit pas une industrie. Ce qu'on devrait faire, c'est trouver le moyen d'avoir une réelle industrie où on produit des films et que ces films vont en salle, que ce soit en Afrique comme en Europe, et que les gens payent pour aller regarder ces films. C'est ce qui construit une industrie. Le Nigeria est le troisième producteur de films au monde. Et pourtant, le Nigeria n'est pas extrêmement présent dans les festivals. Il est pratiquement inexistant dans les festivals, que ce soit au FESPACO ou dans les autres festivals internationaux. Ça n'empêche que l'industrie cinématographique du Nigeria est beaucoup plus florissante que celle du Sénégal ou d'autres pays d'Afrique.
Merci beaucoup Christian Thiam d'avoir été avec nous tout de suite dans l'Afrique en culture. Je vous propose une petite pause musicale. Rema, Calm Down, un morceau que l'on aime tout particulièrement et on se retrouve juste après.
In my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like, oh, 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 oh. Shawty, come give me your lo, lo, lo.
Rema, Calm Down, bien sûr. Et tout de suite, nous parlons cinéma avec Mambar Pierrette, Le combat d'une vie. Mambar Pierrette de la cinéaste Rosine Bakam qui raconte le quotidien d'une femme courage camerounaise tournée au Cameroun. Il a été d'ailleurs présenté à la quinzaine des cinéastes lors du dernier festival de Cannes parmi les films africains présentés dans les différentes sélections. On retiendra donc Mambar et Pierrette qui a d'ailleurs créé l'événement lors de la dernière quinzaine des cinéastes. Un film signé Rosine Bakam qui dresse le portrait simple d'une couturière, une mère courage vivant à Douala et qui se bat pour faire vivre sa famille.
Mar, tu fais quoi ma caisse? seulement, mais seulement que les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Donc il faut qu'on soit responsable vis-à-vis de nos actes.
Yes, big non meeting président. Tu vois, quand on va mouger, après l'élection, à mi-malématique, ma grande gueule.
Wow, Mamba, je suis contente.
Vraiment, mal au moment de l'argent, l'oxygène. Tu as bien cousu mon cavalier.
Ma femme, tu dois une bien.
Une femme doit être entreprenante, battante. Moi, un homme, on ne sait pas.
Kéchène.
Un homme dans ma vie, c'est juste un bonus.
Mambar Pierret de Rosine Bacam, qui a fait sensation à la dernière quinzaine des cinéastes, mais pas que, puisque Mambar Pierret est une femme, mais également une mère qui se bat au quotidien pour faire vivre sa famille. Elle travaille dur pour acheter les fournitures scolaires de ses enfants. Elle est couturière, mais quand sa machine à coudre tombe en panne, qu'une pluie particulièrement violente inonde son atelier de Douala et qu'elle se fait voler son sac, sa vie se complique. Après 4 documentaires, c'est le premier film de fiction de la cinéaste camerounaise Rosine Bacam, mais qui connaît intimement la réalité qu'elle met en scène. Elle dit « C'est ma mère, ce sont mes tantes, Mambar Pierret. Le personnage principal, c'est ma cousine Gistel. » Le film est inspiré de sa propre vie et j'ai envie de faire du cinéma en regardant des gens. Et avec Mambar Pierret, je voulais mettre ces gens au centre du cinéma. Âgée de 44 ans, Mambar Pierret espère que son parcours inspirera d'ailleurs d'autres femmes. Elle dit « Ce film permet d'encourager d'autres femmes, ne pas attendre trop de leur mari ou du père de leur enfant. » mais d'être aussi une battante. La femme peut tout faire. Voilà ce que dit l'intéressée. Et apparemment, tourner ce film l'a beaucoup aidée, puisqu'elle dit « J'ai pu prendre une boutique au bord de la route et j'ai aussi changé de machine. J'ai acheté aussi les grosses machines industrielles. » Et ça, c'est grâce au cinéma, grâce au tournage de Mambar Pierret. Et comme on le dit parfois, le cinéma dépasse la fiction et peut même changer des vies. Et après avoir dressé des portraits de femmes chez Jolie Coiffure ou les prières de Delphine Rosine Bacam, investit donc le champ de la fiction tout en restant fidèle à la veine documentaire, un film à regarder d'urgence. Et on continue l'Afrique en culture avec cette triste nouvelle, le décès de la journaliste, scénariste, mais également comédienne Fatema El-Oukili, qui nous a quittés mardi dernier. Elle a tiré sa dernière révérence, une figure emblématique bien sûr de l'industrie cinématographique marocaine, mais également de la scène journalistique dans notre pays. En tant que scénariste, elle a contribué à de nombreux films à succès, a joué d'ailleurs dans plusieurs grands films du cinéma marocain. Fatema El-Oukili est également une journaliste accomplie. Elle a intégré le cinéma en tant que scénariste, dialoguiste et script-docteur dans plusieurs films marocains à succès tels que Femme et Femme, Soif, Fils l'amour de Sacha Lébi ainsi que La beauté éparpillée de Lhassine Zinoun. Elle travaillera également avec Jilali Farhati sur La plage des enfants perdus, Mémoire en détention encore dans Casablanca en 2002. Et outre sa contribution bien sûr au cinéma, Fatema El-Oukili a également excellé dans le domaine du journalisme, journaliste accompli. Elle aura fait ses débuts à Média Radio avant de passer par la case 2M où elle a animé la première émission politique au Maroc. Fatema El-Oukili n'est plus et pour nous en parler, pour lui rendre hommage à notre manière, je laisse place donc à Leïla Tsriki, réalisatrice qui a voulu lui dire encore une fois au revoir.
Je veux dire de Fatema El-Oukili, et en disant ces mots, j'ai encore beaucoup de mal à réaliser son départ. C'était une femme d'exception, une femme d'opinion, de culture, une grande journaliste, une actrice et une scénariste talent, pleine de sensibilité. Certainement que beaucoup de témoignages diront la même chose, car c'était à l'unanimité qu'on la voyait ainsi. J'ai eu l'occasion de la connaître la première fois à 2M, en 2000, lors d'une petite réunion sur place. Mais je l'ai surtout bien connue lors du tournage du film de Jilali Farhati, Mémoire en détention, où elle interprétait un rôle. Et c'est là où nous nous sommes liés d'amitié. J'ai trouvé en elle un soutien d'une professionnelle d'expérience vis-à-vis d'une jeune réalisatrice qui se préparait à faire son deuxième court-métrage. D'ailleurs, nous avons collaboré sur ce film-là, Sans encre, où elle m'a aidé à développer le scénario et puis elle en a fait les dialogues. Elle était parmi les premiers à valoriser ce que je proposais en termes cinématographiques et artistiques, à me soutenir, à m'appuyer. Elle me montrait beaucoup d'estime et d'affection, ce que je partageais et je lui montrais de même. Son amitié a été un honneur. Nous sommes restés en contact depuis. Nous arrivait de nous échanger à propos de nos projets, de discuter, de demander des nouvelles de l'une et de l'autre. On pouvait ne pas se voir une année ou plus et puis se revoir comme si on n'avait pas cessé de se voir chaque jour. C'était l'arhama, quelqu'un d'une grande générosité, surtout si elle sent que la personne ou les personnes devant elle sont animées d'authenticité et qu'elles sont vraies. Elle est certainement partie beaucoup trop tôt. Il est très très difficile de combler son manque et sa place dans le domaine. Elle va beaucoup me manquer. Elle me manque déjà, bien que j'ai encore beaucoup de mal à réaliser ce départ très précoce. Quelque part, ce qui me console, c'est d'avoir pu la voir lors du Festival national du film à Tanger, le jour de l'hommage qui lui a été dédié, de l'avoir pris dans les bras, de l'avoir félicité et d'avoir vu son visage souriant et heureux. C'est quelque part ma consolation.
Merci Leïla Tariki pour ce très bel hommage à Fatema Loukili qui n'est plus et qui nous a quittés donc la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a voulu lui rendre hommage aujourd'hui dans l'Afrique en culture. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, on parle littérature avec cet événement. Le roman de Oriane Braithwaite est enfin sorti en français. L'une ou l'autre, son second roman vient de paraître donc en français et qui est une réécriture plutôt grinçante mais réactualisée du Jugement de Salomon, considéré d'ailleurs par la critique littéraire d'antique et de moderne. Second roman de Braithwaite, L'une ou l'autre, est une novella, c'est-à-dire une longue nouvelle. Alors on lit ces 150 pages d'une seule traite. C'était, comme l'explique Oyinkan Braithwaite, une commande de la part de The Reading Agency, une maison d'édition subventionnée par le gouvernement britannique, avec pour mission de vulgariser la lecture parmi les adultes qui ont perdu l'habitude de lire. Elle dira « J'avais des consignes, d'écriture précise, faire court et simple. Je devais raconter dans un anglais facile une histoire originale qui tient le public en haleine. Et c'était un véritable défi, car pendant longtemps, je n'avais pas la moindre idée de ce que je pouvais bien raconter ou attirer. » pour attirer les lecteurs. En tout cas, l'action de l'une ou l'autre se déroule dans un Lagos en plein confinement. Le roman s'ouvre sur les malheurs d'un certain Bambi, un coureur de jupons, invétéré qui se virait en pleine nuit de chez sa compagne. En attendant la fin du confinement, Bambi se réfugie dans la maison familiale où il cohabite avec la maîtresse d'un oncle défunt et sa veuve. Et il y a aussi un bébé dont les deux femmes revendiquent la maternité. Alors toutes les deux sont prêtes à s'entretuer pour s'emparer du bébé. Et vous, comme vous le devinez, c'est à ta Bambi qu'incombera le fait de trancher entre les deux femmes et surtout de protéger l'enfant. Tout un programme donc signé par la Nigériane Oyinkan Braithwaite, L'une ou l'autre, son tout dernier roman qui est enfin sorti en français. C'est ainsi que se clôture cette nouvelle escale au cœur de l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne écoute à tous et je vous rappelle que l'Afrique en culture s'est retrouvée en avant-première toujours sur Média Podcast.